Chapitre 15. Gentil papillon, ouvre tes jolies ailes et va sur sa tombe lui dire que je l'aime. Gaston est encore tombé dans une fosse. Je ne compte plus le nombre de fois où cela arrive. Il y a 2 ans, au cours d'une exhumation, il est tombé à 4 pattes dans le cercueil et s'est retrouvé à plat ventre dans les ossements. Combien de fois pendant les enterrements s'est-il pris les pieds dans des cordes imaginaires? Nono lui a tourné le dos quelques minutes pour emmener une brouette de terre à une 40aine de mètres. Gaston était en train de parler avec la comtesse de Darieux et quand Nono est revenu, Gaston avait disparu. La terre s'était éboulée et Gaston nageait dans la fosse en hurlant « Il faut appeler Violette !» À quoi Nono a répondu « Violette, elle est pas maître nageur !» Pourtant, Nono l'avait prévenu, la terre était friable en cette saison. Tandis qu'il aidait Gaston à se sortir de son pétrin, Elvis a chanté « Face down on the street, in the ghetto ». Parfois, j'ai le sentiment de vivre avec les Marx Brothers. Mais la vérité me rattrape chaque jour. Demain, il y a un enterrement. Le docteur Guyenot. Même les médecins finissent par mourir. Une mort naturelle à 91 ans, dans son lit. Il a soigné tout Brancion-en-Chalon et ses environs pendant 50 ans. Il devrait y avoir beaucoup de monde pour ses obsèques. La comtesse de Darieux se remet de ses émotions en sirotant une petite prune qui m'a été offerte par Mademoiselle Brulier, dont les parents reposent carré des cèdres. La comtesse a eu très peur quand elle a vu Gaston faire un plongeon dans la fosse. Elle me dit, dans un sourire malicieux, « J'ai cru revoir les championnats du monde de natation. » J'adore cette femme. Elle fait partie des visiteurs qui me font du bien. Dans mon cimetière reposent son époux et son amant. Du printemps à l'automne, la comtesse de Darieux fleurit les 2 tombes. Des plantes grasses pour son époux et un bouquet de tournesol dans un vase pour son amant, qu'elle nomme son véritable amour. Le problème, c'est que son véritable amour était marié. Et quand la veuve de ce véritable amour découvre les tournesols de la comtesse dans leur vase, elle les jette à la poubelle. J'ai déjà essayé de récupérer ces pauvres fleurs pour les déposer sur une autre tombe, mais c'est impossible car la veuve en a arraché tous les pétales. Et ce n'est sûrement pas en murmurant un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, qu'elle effeuille les tournesols de la comtesse. En 20 ans, j'en ai vu des veuves éplorer le jour de l'enterrement de leur mari et ne jamais remettre les pieds au cimetière ensuite. J'ai aussi rencontré beaucoup de veufs qui se remariaient alors que le corps de leur femme était encore chaud. Au début, il glisse quelques centimes dans la coccinelle pour que je continue à m'occuper des fleurs. Je connais quelques dames de Brancion qui sont spécialisées dans le veuf. Elles arpentent les allées toutes de noir vêtues et repèrent les hommes seuls qui arrosent les fleurs de la tombe de leur défunte. J'ai longtemps observé le manège d'une dénommée Clotilde C., qui chaque semaine s'inventait de nouveaux morts à chérir dans mon cimetière. Le premier veuf inconsolable repéré, elle le ferrait en entamant la conversation à propos de la météo, de la vie qui continue, et se faisait inviter à boire l'apéritif un de ses soirs. Elle a fini par se faire épouser par Armand Bernigal, dont l'épouse, Marie-Pierre Vernier, épouse Bernigal 1967-2002, repose carré des ifs. J'ai récupéré et ramassé des 10aines de plaques funéraires neuves dans la poubelle ou dissimulées sous des buissons par des familles outragées. Des plaques avec les mots « À mon amour pour l'éternité » qui avaient été déposées par un amant ou une amante. Et je vois chaque jour des illégitimes venir se recueillir discrètement, surtout des maîtresses. Il y a une majorité de femmes qui hantent les cimetières parce qu'elles vivent plus longtemps. Les amants ne viennent jamais les week-ends, aux heures où ils pourraient croiser quelqu'un. Toujours à l'ouverture ou à la fermeture des grilles. Combien en ai-je déjà enfermé? Accroupis sur les tombes, je ne les vois pas et ils doivent venir frapper à ma porte pour que je les libère. Je me souviens d'Émilie B. Depuis que son amant, Laurent D., avait rendu l'âme, elle arrivait toujours une demi-heure avant l'ouverture. Quand je la voyais attendre derrière les grilles, j'enfilais un manteau noir sur ma chemise de nuit et j'allais lui ouvrir en pantoufles. C'est la seule personne pour qui j'ai fait cela, mais elle me faisait trop de peine. Je lui offrais une tasse de café sucré avec un peu de lait chaque matin. Nous échangions quelques mots. Elle me parlait de son amour fou pour Laurent. Elle me parlait de lui comme s'il était présent. Elle me disait « Le souvenir est plus fort que la mort. Je sens encore ses mains sur moi. Je sais qu'il me regarde, de là où il est. » Avant de repartir, elle déposait sa tasse vide sur le rebord de la fenêtre. Quand des visiteurs venaient se recueillir sur la tombe de Laurent, son épouse, ses parents ou ses enfants, Émilie changeait de tombe, attendant, tapis dans un coin. Dès qu'il n'y avait plus personne, elle revenait vers Laurent pour se recueillir, lui parler. Un matin, Émilie n'est pas venue. J'ai pensé qu'elle avait fait son deuil, parce que la plupart du temps, on finit par faire son deuil. Le temps détricote le chagrin, aussi immense soit-il. Sauf le chagrin d'une mère ou d'un père qui a perdu son enfant. Je me trompais. Émilie B. n'a jamais fait son deuil. Elle est revenue dans mon cimetière entre quatre planches, entourée des siens. Je pense que personne n'a jamais su que Laurent et elle s'étaient aimés. Bien sûr, Émilie n'a pas été enterrée près de lui. Le jour de son enterrement, quand tout le monde est reparti, comme on plante un arbre le jour d'une naissance, j'ai fait un bouturage. Émilie avait planté une lavande sur la tombe de Laurent. J'ai coupé une longue tige de cette lavande, je lui ai fait plein de petites plaies pour favoriser la reprise des racines, j'ai coupé la tête et je l'ai enfoncée dans un fond de bouteille percée, rempli de terre et d'un peu de fumier. Un mois après, la tige avait refait des racines. La lavande de Laurent allait aussi devenir celle d'Émilie. Ils auraient cela pendant des années, cette fleur en commun, enfant de la plante mère. J'ai pris soin du rejet tout l'hiver et je l'ai replanté au printemps sur la tombe d'Émilie. Comme le chante Barbara, le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Aujourd'hui encore, les lavandes de Laurent et Émilie sont magnifiques et embaument toutes les tombes d'à côté.